notre séminaire sur le lacanien. Et donc la question des croyances, attitudes et convictions. Donc merci à Anita Escovich et Bernard Luminé pour les exposer. Donc je vous rappelle, Anita va nous parler sous les titres croyances et certitudes. Anita, analyste à Paris, membre d'école, enseignante au Collège Clinique de Paris. Bernard Luminé, qui va nous parler ce soir donc sous les titres Destin des croyances, des certitudes et des convictions dans une cure analytique. Voilà, Bernard Luminé, merci. Il est psychiatre, psychanalyste à Pau, membre de l'école et enseignant au Collège Clinique du Sud-Ouest. Donc, je donne tout de suite la parole à Anita. Voilà.
Alors, je me demanderai dans un premier temps qu'est-ce que la croyance, pour ensuite établir quelle est la différence avec la certitude. J'aborderai ces deux points, la croyance et la certitude, en rapport avec la question de l'amour, car la nature de l'amour n'est pas la même dans la croyance que dans la certitude. Je me propose donc de voir en quoi réside la différence. Dans la séance du séminaire RSI, le 21 janvier 1975, Lacan développe que l'homme y croit à la femme, et c'est ce qui constitue son symptôme. Il y croit dans la mesure où il croit à ce que dit la femme, et c'est ce qui s'appelle l'amour. Et de la même manière que l'homme y croit en la femme, il y croit en son symptôme, c'est-à-dire qu'il croit à ce que son symptôme dit. C'est en cela que pour l'homme qui est encombré, affligé du phallus, une femme est un symptôme. Un symptôme, ajoute Lacan, qui correspond au symbolique qui donne de la consistance à ce qui fait métaphore. C'est pourquoi Lacan écrit aussi « affligé » avec PH pour faire entendre la dimension de substitution du signifiant phallique dans la structuration du symptôme. Donc, la fonction de la croyance dans un « y croire en l'amour de la femme » est bien de constituer le bouchon phallique en faisant exister le rapport sexuel qui, de structure, n'existe pas. C'est ainsi que Lacan, dans cette leçon de RSI, fait référence à Stendhal qui, dans son livre de l'amour, a classifié les différentes formes d'amour. Il y a l'amour passion, l'amour goût, l'amour physique, l'amour de vanité. L'amour de vanité, c'est avoir une femme à la mode. On remarquera que cette croyance en l'amour de la femme, classifiée en quatre types qui comportent chacun 8 ou 10 nuances, est constituée d'une sacrée comptabilité faite d'addition de l'avoir phallique. C'est bien en cela que le sujet névrosé, dit Lacan, dans la séance précédente, celle du 14 novembre 1974, de RSI toujours, fait non pas que le sujet névrosé fait non pas des multiplications, mais des additions. Et il se perd dans ses comptes, il ne s'y retrouve pas. Il veut tellement croire en la vérité de ses additions qu'il s'embrouille et cherche à se corriger sans cesse. Cela étant, il s'agit d'une comptabilité faite de doutes malgré tout, puisque Stendhal dit en même temps que l'amour est insaisissable. On ne peut s'assurer d'une vérité puisqu'il semble tomber du ciel et passe dans l'âme sous la forme d'effets et de signes. Il déclare que l'homme n'a alors qu'une solution, exagérer cet amour, s'assurer des perfections de l'objet aimé, combattre ses doutes en allant vérifier les preuves que la femme vous aime. C'est un y croire à la femme fait de labyrinthe de la pensée, c'est-à-dire ce qu'il appelle le fluide nerveux qui s'use par la cervelle chez les hommes. Et si on se réfère à son autobiographie, Stendhal commence par un défi, celui de faire l'examen de son moi inconnu à lui-même, en s'empêchant de mentir. Et il termine en disant qu'il n'a plus confiance dans les jugements qu'il a écrits jusque-là, et il ne peut plus peindre le bonheur fou d'amour car il serait ridicule et le lecteur ne pourrait plus le croire. Donc de quoi est constituée la croyance? On peut dire de mensonges qui semblent vrais, de fictions, sachant que, comme le dit Lacan dans Télévision, l'impasse sexuelle sécrète les fictions qui rationalisent l'impossible dont elle provient. C'est-à-dire, comment, à partir de l'inexistence du rapport sexuel qui fait impasse, sont sécrétées des croyances en des fictions pour rationaliser l'impossible. J'en viendrai maintenant à la différence entre la croyance et la certitude. Lacan établit une différence entre la névrose qui consiste à y croire à la femme et la psychose qui consiste à la croire. Dans la névrose, il y a l'absence de médiation phallique qui permet... Dans la névrose, il y a la médiation phallique qui permet d'y croire, et dans la psychose, l'absence de médiation phallique fait qu'on la croit comme hallucination et comme voix. De la même manière, Lacan dit bien que dans la névrose, on y croit à son symptôme, alors que dans la psychose, on le croit. Je me demanderai donc à quoi cela correspond, de le croire, son symptôme, au sens de certitude. Pour développer ça, je resterai dans le champ de l'amour en me référant à Breton, et notamment à ce qu'il a pu définir de l'amour fou. On sait que Lacan a fait référence à ce qu'il appelait les imbéciles de l'amour fou, qui s'intitulaient eux-mêmes surréalistes, dit-il, en disant qu'ils voulaient suppléer à la femme qui n'existe pas comme là dans son errance. Alors, Breton définit l'amour fou pour la femme comme quelque chose qui se construit sur son apparition et sa disparition. C'est ce qu'il appelle la question des appâts. Pour faire apparaître une femme, il faut soit ouvrir ou fermer une porte, soit déplacer des objets dans des positions insolites, car cela aide à comprendre pourquoi elle ne vient pas, et même accepter mieux qu'elle ne vint pas. Ou encore, il faut penser à la femme qui allait arriver et qu'on allait retrouver, penser à la lettre qu'elle allait nous écrire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du statut de l'amour fou? Il est pris dans la dimension d'absence de la femme à rendre présente, mais en ne pouvant pas croire en sa présence, ce qui fait recourir aux appâts pour assurer la certitude de sa présence. Breton précise que celui qui aime fait un don absolu de lui-même. Il est alors tenté d'incriminer le défaut à l'amour alors qu'il ne s'applique qu'à la vie. Comment le décrit-il, ce défaut de la vie? Il s'agit d'un piège, dit-il, qui s'est mis en place avec une ingéniosité et une sûreté qui dépassent l'entendement. Et c'est ça qui rend la chute inévitable, à la fois dans la vie et dans l'amour. La croyance au piège apparaît donc là comme une certitude qui dépasse l'entendement, qui n'a pas de sens. Et c'est cela qui fait que l'amour, soudain, n'est plus absolu. Il révèle une incompatibilité soudaine entre le sujet et l'objet de son amour qui amène à tomber au fond du gouffre. Il y a alors une violence du choc qui dresse les deux êtres qui s'aimaient dans l'amour absolu, jusque-là dans un parfait accord, l'un contre l'autre. L'origine du mal ne peut alors être décelée. Il faut recourir à un autre procédé que celui du sens. Il s'agit, dit-il, d'interroger hors règle la question de l'absence et du manque invincible. Donc, On peut se demander de quoi est fait le défaut, le manque dans l'autre, hors règle, hors discours. Breton le dit très clairement, il s'agit de se situer en étant retenu par le fil de la femme, qui est celui du bonheur, tel qu'il transparaît dans la trame du malheur. C'est donc, on peut dire, sur cet axe imaginaire entre soi-même et la femme, entre bonheur et malheur, qu'il dit se repérer, de manière à exclure ce qu'il appelle la trinité abjecte qu'est la famille, la patrie et la religion. Il faut ajouter que Breton rapprochait ce qui est en jeu dans l'art créateur surréaliste du crime, de celui qui tue au hasard dans une foule, dans une insoumission totale aux normes du pouvoir et du maître. Ce n'est d'ailleurs pas anodin que Lacan ait écrit dans la revue surréaliste Le Minotaure des articles, notamment un sur les motifs du crime paranoïaque, le mal d'être deux à propos des sœurs Papin. Donc, qu'est-ce qu'on peut saisir de ce que dit Breton lui-même dans cette... cette trinité abjecte et cette violence du choc entre deux. On peut dire que face à la chose qui met l'homme dans une position de médium entre le réel et le signifiant, Breton se situe dans une profonde incroyance, l'unglauben, du fait de la Verwerfung, qui fait que ce qui est rejeté du symbolique reparaît dans le réel, il ne peut y avoir recours dans le rapport à l'objet, à la signification du phallus, comme dans le cas de la névrose. C'est pourquoi dans la relation à l'amour fou, tout tiers est rejeté en disant qu'il n'est qu'un piège ou encore l'élément abject de la famille, la patrie ou la religion. Face à ce lieu central qu'est la chose, face à son extimité qui ne peut être médiatisée par le phallus, puisqu'il est fort clos, il ne peut donc y avoir qu'une lutte avec l'étranger sur l'axe imaginaire qui se traduit dans l'amour fou par deux êtres qui s'aimaient et qui se dressent soudain l'un contre l'autre, hors règle, face à la certitude d'un piège, hors entendement. La solution du Breton est alors de faire cesser que les images opposées soient perçues de façon contradictoire. Ou, il le dit encore ainsi, que la vie et la mort, la construction et la destruction, le passé et le futur, cessent d'être brandis l'un contre l'autre. C'est ainsi que dans la création surréaliste, dit-il, les deux termes de l'image sont des produits simultanés dont l'étincelle naît de leur différence de potentiel. J'éclairerai ce point avec ce que Lacan disait dans l'instance de la lettre, de l'écriture automatique dans le surréalisme, qui pensait s'assurer de la découverte freudienne en prétendant que l'étincelle poétique provenait d'une conjonction de signifiants dans une métaphore. Lacan concluait qu'il n'y avait aucune métaphore dans la création surréaliste, puisque le principe de l'étincelle créatrice de la métaphore jaillit entre deux signifiants dont l'un s'est substitué à l'autre dans la chaîne signifiante, ce qui n'est pas le cas du surréalisme qui réunit deux signifiants contraires. On sent bien qu'il n'y a pas chez Breton refoulement dans l'inconscient d'une représentation en contradiction avec celle qui est en accord avec le moi et substitution par une représentation consciente. Dans la création surréaliste, on peut le dire ainsi, les relations, les représentations opposées et contradictoires qui s'affrontent sont réunies sur la bande de Möbius sans changer de bord. Elles ne sont pas séparées entre conscient et inconscient. À partir de là, peut faire, me semble-t-il, la différence entre la croyance et la certitude sur ce point. Le refoulement implique une croyance médiatisée par le phallus, comme on a pu le voir dans L'amour fait de doute chez Stendhal, alors que chez Breton, il s'agit d'une certitude qui, sans médiation phallique, pose une identité du mot à la chose dans l'amour fou qui vire à la lutte avec le même. D'ailleurs, Breton est très clair. La création surréaliste correspond à un affrontement entre deux pensées, l'une traitant la pensée adverse en ennemi en la repoussant, l'autre reprenant une réplique en la dénaturant. Sur ce point, il fait référence à l'écolalie de l'aliéné qui répète le dernier mot du médecin. C'est ainsi qu'en travaillant dans le service de Babinski, Breton s'est inspiré des troubles mentaux pour les inscrire dans l'acte créateur surréaliste. Par exemple, il réfère les champs magnétiques de Soupeau à l'écolalie. Je reviendrai à la question de la croire, la femme comme voix et hallucination, avec cette anecdote de Breton. Un soir, avant de s'endormir, il avait entendu une voix, c'est-à-dire une phrase insistante qui cognait à la vitre et qui disait « Il y a un homme coupé en deux par la fenêtre ». Elle était accompagnée d'une hallucination visuelle d'un homme tronçonné à mi-hauteur. Il décida, à partir de ce moment-là, d'introduire cette image dans le matériel de sa construction poétique, notamment quand il y eut des successions de phrases gratuites qui s'imposèrent à lui, dont il a fait sa création surréaliste. On peut en déduire que l'acte créateur surréaliste correspond à un redoublement infini de signifiants sur le modèle du même. Breton disait que le recours pour mettre à distance les hallucinations est de repasser par le réel en le redoublant. On saisit là qu'il n'y a pas de recours aux additions comme dans la névrose, mais aux multiplications. C'est en cela que, face à la profonde incroyance à la signification phallique, Breton a recours à la certitude du double, du même qu'il multiplie. Et dans le manifeste du surréalisme, il dit que l'esprit revit dans l'âme avec exaltation la meilleure part de son enfance. Il ajoute, c'est un peu pour lui la certitude de quelqu'un qui, en train de se noyer, repasse en moins d'une minute tout l'insurmontable de la vie. Et c'est ce que Breton appelle le rapport à l'inconscient qui consiste à revivre son passé dans le présent. Mais on l'aura compris, repasser en moins d'une minute tout l'insurmontable de sa vie, ce n'est pas de l'ordre de la croyance qui symbolise le réel du passé dans une métaphore. C'est au contraire de l'ordre de l'incroyance au nom du Père et de la certitude qui repasse par le réel en le redoublant ou en le multipliant. J'en viendrai maintenant au statut de l'incroyance et de la certitude dans la cure analytique elle-même. Qu'est-ce qui est en jeu finalement pour un sujet quand à l'appel du nom du Père répond la carence du signifiant lui-même, de l'effet métaphorique, quand de l'autre ne peut répondre qu'un trou à la place de la signification phallique? On a l'exemple de Schreber, et on peut dire que lui aussi l'a cru, la femme, la figure divine, à tel point qu'il a été anéanti, laissé en plan. Et on se rappellera comment il a eu recours, par exemple, à l'homophonie pour lutter contre les hallucinations auditives des oiseaux qui répétaient les phrases dénuées de sens, ou comment il a eu recours à l'écrit, ses mémoires comme vibration de l'introspection. On peut dire que Schreber a finalement trouvé dans l'autre ce qu'il a autorisé à la jouissance. la solution qui consiste à être la femme de Dieu autorisée par lui fait qu'il n'est plus persécuté. C'est ce qui l'amène à une stabilisation dans la métaphore délirante qui fixe d'une autre façon le rapport entre la jouissance du sujet et la jouissance de l'autre. C'est ainsi que la solution dans la psychose peut être de faire résonner dans la cure un écho dans la béance de l'extimité sur le mode de redoubler le réel sur l'axe imaginaire ou de suppléer en donnant consistance à ce qui peut faire monture à son fantasme ou faire cadre à sa fenêtre. On peut dire que ce qui stabilise dans la psychose, c'est un remaniement des coordonnées symboliques qui n'ont pas été métaphorisées. Et c'est ce remaniement qui repasse par les sillons, couvre le signifiant dans le monde réel et qui a des effets sur l'imaginaire. On pourrait dire que c'est de l'ordre d'un faire avec le réel, non symbolisable, en opérant un bouger dans l'incroyance et la certitude. J'en viendrai à la question de la croyance dans l'amour de transfert, dans la cure analytique. Il y a plusieurs expressions chez Lacan. Le transfert est le moteur de l'analyse. Il est le soutien de la parole. Il est une incitation au savoir. Le principe du transfert, c'est de l'ordre de l'agalma. La croyance, donc, en cette parure qui enveloppe quelque chose de caché. C'est ce qui amène l'analysant à vouloir savoir ce qu'il y a à l'intérieur de son symptôme et il croit que l'analyste en saurait quelque chose. Le névrosé cherche à savoir et il n'a donc aucune peine à faire foi, à y croire, à cet autre, comme lieu où le savoir s'institue. Il s'agit alors de donner sa garantie au transfert, c'est-à-dire au sujet supposé savoir. Il y a donc dans une analyse cette force de la croyance en un autre comme lieu du savoir, sachant que ce savoir n'est que supposé puisqu'il se réfère au signifiant qui manque dans l'autre. Il s'agit donc d'une croyance qui est fondamentalement trouée. Et c'est ce qui fait que concernant le transfert, il s'agit pour l'analyste de maintenir l'écart entre l'idéal et l'objet A afin de permettre à l'analysant de cerner le réel. C'est ce qui veut dire que la croyance en un idéal trouve sa limite du réel même. Cette place à donner au réel, elle concerne aussi l'interprétation. Notamment, quand Lacan dit que l'interprétation qui est du côté de la métaphore fait consister le symptôme. Ou encore, concernant l'obsessionnel, que l'analyste ne doit pas s'avancer dans des interprétations qui seraient prises du côté du « donner à y croire » au phallophanie ou à l'autre en tant qu'il peut se présenter comme phallus. Je me demanderai maintenant qu'est-ce qu'on peut dire de la croyance concernant le discours analytique lui-même. Il s'agit en effet, dans une analyse, de cerner le réel de son désir au-delà de la croyance en des fictions, de toucher le réel à le rencontrer comme impossible. L'inconscient, c'est de l'ordre du mythe auquel on croit et on en donne plusieurs versions dans l'analyse. Et ce qui résulte, c'est l'inconsistance qui s'en démontre dans des effets. C'est donc dans l'intervalle de l'interdit, ce qui est dit entre la croyance et le réel, que se situe l'élaboration dans une analyse. Donc si le névrosé s'évertue à dire le bien qui fait exister l'amour, dans une analyse, il est impossible de bien dire sur le sexe. Lacan parle même de syncope, de suspens de la fonction phallique qui ne se soutient que dit sembler, de fixer la limite où ce semblant n'est plus que des sens. Donc, on peut dire que le « y croire en la femme », « y croire dans le deux du sexe qui ferait un » devient, dans le discours analytique, une coupure du « deux », une coupure du « un », un faire que le « deux », le chiffre, devienne, comme l'écrit Lacan, « deux » avec « des apostrophes » qui sépare. Finalement, on peut dire que la croyance qui opère dans l'analyse, c'est une croyance faite de coupures, de discords, entre le mythe de la vérité et les faits de ce qui s'en détache. Autrement dit, puisque la femme n'est pas toute, puisqu'elle ne peut se dire dans un « y croire », c'est le « dit » qui se pose en vérité, sachant que le « dire » ne peut qu'y exister.